France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Qui reçoit aujourd'hui
Olivier Lacoureille.
Professeur Olivier Lacoureille, merci d'être là. Vous êtes otorhino-laryngologiste et vous êtes spécialiste de la chirurgie cervico-faciale. Vous êtes là donc le 21 juin, ça ne vous a pas échappé, nous sommes à la fête de la musique. Et nous allons donc parler de la voix et nous allons passer pas mal de temps avec vous, mais aussi avec de la musique, pour bien entendu, et des chants, pour parler justement de cet organe aussi miraculeux qui est le larynx, bien entendu. Alors, vous êtes un spécialiste justement des tumeurs du larynx, de la glande thyroïde. Vous êtes bien sûr membre de nombreuses sociétés savantes, membre de l'Académie nationale de chirurgie et de médecine, et vous avez publié un certain nombre d'articles scientifiques. Mais vous avez aussi publié près de 300 articles scientifiques, ce qui est quand même pas mal. Mais vous avez publié un livre que je conseille à tous ceux qui sont intéressés justement par le contenu de notre émission, aux éditions Le Fallois, et en association avec le docteur Laurence Lacoureille, qui est médecin audiophonologiste, qui réhabilite donc les troubles de l'audition, les troubles de l'élocution, de la parole, qui travaille à l'Institut Verne, et puis le docteur Alfred Werner, qui est spécialiste en ORL, et tous les trois, vous avez donc fait ce livre qui est en même temps une source de renseignement, mais aussi une source d'évocation et de découverte de l'inconnu. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de mots, vous en parlerez tout à l'heure, entre des gens qui s'occupent de la rééducation de la voix, de l'ORL, des phoniatres, et il y en a d'autres encore, qui s'occupent autour de cet organe, que finalement on a découvert que pour la première fois avec le dessin de Léonard de Vinci. C'est lui qui va rendre compte de cet appareil cartilagineux qu'est le larynx. Alors, je vais vous demander, professeur Olivier Lacoureille, voilà, qu'est-ce que vous diriez, puisque vous ne pouvez pas dessiner, à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le larynx ? Parce que c'est quand même assez complexe.
Oui, d'abord, c'est un organe unique. Chacun a son propre larynx. Ensuite, c'est un organe évolutif parce que cet organe va se modifier de la naissance jusqu'à l'âge adulte et la puberté va avoir un point très, va être un point très important au niveau de la voix. Alors, pour faire simple, ça a une forme de bouclier de lame cartilagineuse triangulaire que les hommes peuvent palper au niveau de leur cou. C'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Et puis, au sein de ce bouclier cartilagineux, il existe une série de muscles dont l'un d'entre eux va avoir un tendon qu'on va appeler corde vocale ou pli vocal. Et c'est ce tendon, ce pli vocal, qui va être l'élément très important pour la création de la voix. Si on regarde le dictionnaire Larousse, la voix, c'est l'ensemble des sons qui vont être émis au passage de l'air à partir des poumons au travers du larynx.
Voix, parole, langage, tout ça.
Voilà.
Se tient.
Cette voix va être en effet le point de départ de deux éléments primordiaux pour l'être humain, que sont la parole et le langage. En définition, la parole, c'est la capacité à prononcer ses sons. Par contre, le langage, ça va être la faculté qu'a tout être humain à exprimer sa pensée et à communiquer au moyen d'un certain nombre de signaux qui peuvent être vocaux, c'est donc la voix, mais ils peuvent être aussi graphiques, comme l'écriture, le langage écrit, voire même signé, comme chez les malentendants, le langage signé qui permet de se faire comprendre sans avoir une émission de son.
Alors, en fait, il y a cet organe, mais il y a aussi au-dessus et en dessous tout un tas d'autres organes qui participent à tout ça. Je veux dire par là qu'il y a une soufflerie, c'est les poumons. Hein, si on souffle, on peut pas faire de prononciation. Il y a cette déglutition qui va permettre de protéger les voies aériennes, hein, de pas ingurgiter. Donc, parce qu'il y a des carrefours, le larynx, le pharynx, tout ça, c'est des carrefours entre l'alimentation et la respiration. Et puis, il y a effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait phonatoire, le fait que ces petites cordes, là aussi, on les a vues il y a peu de temps, finalement, hein, la découverte du laryngoscope, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Mais ces deux petites cordes qui sont toutes petites, elles font combien de long?
Oui, elles sont à la naissance 3 mm. Et chez l'adulte de sexe masculin, ça va osciller entre 25 et 30 mm. Et chez la femme, entre 18 et 20 mm. Donc ça ne dépasse pas les 2 à 3 cm de longueur. Ces cordes vocales, comme vous l'avez très bien dit, elles ne fonctionnent qu'avec une soufflerie. C'est les poumons, et sur cette soufflerie, il y a des muscles qui vont la contrôler. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des muscles très importants, votre diaphragme. Mais surtout, on peut avoir une respiration et une inspiration thoracique ou abdominale. Chez les chanteurs en particulier, la respiration abdominale va être très très importante, et le travail de la sangle abdominale va être nécessaire pour pouvoir parler et chanter de façon très correcte.
Alors, Nathalie Dessay, elle a des cordes vocales particulières. Elle les a travaillées, ça c'est sûr. Oui. Mais est-ce qu'on peut reconnaître des cordes vocales qui vont donner un chant magnifique à d'autres?
Oui, bien sûr.
Parce que
c'est un muscle, et quand on le regarde, on peut examiner ces cordes vocales en passant des optiques soit par la bouche, soit par le nez, se placer au-dessus de ces cordes vocales, et on peut les voir. Et chez les chanteurs, comme Nathalie Dessay, les très grands chanteurs, ces cordes vocales vont avoir non seulement une forme particulière, une masse particulière liée au travail, mais aussi, il va y avoir, comme on l'a très bien entendu là, une possibilité de contrôler leur mouvement et de faire ces notes justes, en rythme, avec des timbres différents, qui participent à un degré d'émotion très très important.
Oui, on va faire le lien entre la voix, les émotions tout à l'heure. Mais les cordes vocales sur lesquelles on insiste, bien sûr, parce que c'est la clé, on va dire, de voûte, et votre livre, Les clés de la voix, bien entendu, se focalise pas mal sur les cordes vocales, mais il y a aussi tout un mécanisme de résonance. Ça ne suffit pas, les cordes vocales. Il faut qu'il y ait quelque chose. En dessous, on l'a dit, c'est la soufflerie, mais au-dessus, qu'est-ce qui se passe?
Une analogie assez simple, ces cordes vocales, donc, vibrent les unes en face des autres, sous l'effet de la soufflerie. Et si vous pincez une corde tendue, eh bien vous allez avoir un son, mais ce son, il n'est pas terrible. Par contre, si derrière cette corde, vous mettez une caisse de résonance, comme une guitare, une contrebasse, un violon, à ce moment-là, vous allez avoir un son qui varie en fonction de ces caisses de résonance, et bien entendu de la tension de ces cordes que vous avez réglées au préalable. Chez l'être humain, ce qui est absolument extraordinaire, et c'est pour ça que la voix est le plus grand instrument de musique qui existe au monde, c'est que notre tractus, c'est-à-dire les structures qui sont au-dessus de ces cordes vocales, une partie du larynx, puis ensuite ce qu'on appelle vulgairement la gorge, mais aussi la langue, les dents, le voile du palais, les cavités nasales, parce que si je suis enrhumé, je vais parler du nez comme ça, et ma voix a totalement changé, vont intervenir. Et elles interviennent en fait en donnant le timbre. Vous avez donc un fondamental, une vibration de base qui est votre vibration, et ensuite
chacun sa vibration.
Chacun sa vibration. Et les phoniatres peuvent vous donner votre fondamental, ça se calcule, il y a différentes méthodes pour le trouver. Et ensuite, on va créer ce que l'on appelle des harmoniques ou des formants qui vont donner ce timbre. Alors, quelqu'un comme moi qui ne suis pas un grand chanteur, je vais en avoir 3, aller à peu près. Mais un très très grand chanteur peut aller jusqu'à 7-8 harmoniques, et surtout, par le contrôle qu'il va exercer sur ses mécanismes de phonation, arriver à les utiliser à leur maximum au moment où il veut les faire ressortir. Et c'est ça le miracle du chant. Ce qui nécessite un travail absolument ardu, épouvantable. Il y a beaucoup d'histoires dans la littérature qui témoignent combien les très grands chanteurs, comme par exemple Amal Gibran ou Pavarotti, ont souffert pour acquérir cet extraordinaire don.
Surtout quand Amal Gibran avait un père quand même particulièrement sévère.
Oui, c'est toujours la faute des papas.
On va en parler tout à l'heure. Mais dans cette vocalisation progressive pour l'être humain, de bébé à adulte, il y a plusieurs passages. Il y a les passages de l'allation, le re fameux, qu'on peut moduler en jazz, mais qui arrive à un babillage, donc vers le septième mois. Et là, habituellement, c'est le mot papa qui sort le premier, parce que plus facile
terrible.
À prononcer.
C'est terrible pour
les mamans,
pour les
mais enfin bon, voilà, ça va pas durer. Et puis on arrive donc à avoir des accents, des intonations. Mais qui dit l'apprentissage de la parole, donc possibilité bien sûr de prononcer, dit aussi problème d'audition.
Oui.
Enfin, problème d'audition, non, dit éviter les problèmes d'audition. D'où le dépistage qui a été proposé maintenant systématique des bébés.
Qui est obligatoire.
Qui est obligatoire.
C'est pas une proposition, c'est obligatoire.
De voir qu'il n'y a pas de trouble de l'audition, dépister la surdité, parce que évidemment l'un entraîne l'autre.
Oui. Alors, sur l'importance de ce point de l'audition, c'est vraiment, je voudrais insister, parce que c'est, bien que je parle de la voix, l'audition est vraiment primordiale, et notre pays a la chance d'avoir ce dépistage obligatoire. Il faut que les mamans le sachent, parce que ce dépistage doit être réalisé avant la fin de la première année. Pourquoi ? Parce que ça va être au décours de cette première année que vont se mettre en place des mécanismes qui vont faire que si on ne dépiste pas le trouble de l'audition, il sera beaucoup plus difficile ensuite de pallier au déficit de l'audition. Et ce déficit de l'audition retentira sur la voix. Alors, il y a des histoires très connues dans la littérature. Il y a un empereur, un roi d'Allemagne, Frédéric II, qui était aussi roi de Sicile, roi de Jérusalem, qui voulait devenir roi d'Italie et qui a été contré dans cette tentative deux fois par Grégoire Ier, qui l'a excommunié à deux reprises. Et c'était un empereur, un roi extrêmement cultivé. Il se posait une question, parce qu'il parlait 7 langues. Il se demandait comment les langues et le langage arrivent-elles. Et pour essayer d'avoir la réponse, il a enfermé une série d'enfants avec des nurses, en interdisant aux nurses de parler à ces nouveau-nés. Et il voulait voir, à la fin, quel langage, quelle voix sortirait. Eh bien, c'était un groupe de 6 enfants. Les nurses ont bien fait ce que voulait le roi, sinon elles étaient punies de mort. Et aucun des enfants n'a acquis un langage, ni une voix, et tous sont morts en se laissant mourir à l'époque. Donc on voit bien l'importance de non seulement l'audition, mais aussi la communication avec les autres.
Alors c'est aussi l'histoire de Victor, hein, l'enfant sauvage, qui a été recueilli par Gaspard Itard, pionnier de l'ORL, pionnier de l'Institut des Jeunes Sourds d'ailleurs, et qui a, contrairement à Pinel, qui pensait qu'il était arriéré mental, cet enfant sauvage donc qui ne parlait pas, et bien finalement il va le rééduquer au moins en partie, peut-être pas totalement, mais au moins,
oui,
au moins
en
partie.
Il va essayer de rééduquer. C'est un enfant qui était dans les bois de l'Aveyron pendant plusieurs années, une dizaine d'années, que des chasseurs, comme quoi les chasseurs sont très utiles, que des chasseurs ont retrouvé et ils l'ont amené à Paris, parce qu'à ce moment-là, à Paris, il y avait Pinel, qui était très connu,
et
cet enfant, neurologue, ne parlait pas. Et donc, Itard, lui, était très influencé par les thèses de Condillac et de Rousseau sur la nature, le développement, et s'opposait à Pinel. Et donc, il a voulu rééduquer la parole de cet enfant, que Pinel jugeait condamné. Il y est arrivé, mais avec des méthodes un peu rudes. Il est forcé à prendre des bains bouillants. Enfin, il lui a rééduqué une partie de sa parole, mais cet enfant n'est jamais arrivé à parler normalement. Et en fait, il était sourd profond. Il faut savoir que maintenant, j'en reviens encore un peu à l'audition, si un enfant est sourd profond, c'est-à-dire n'entend rien, ses centres, s'ils ne sont pas réhabilités, vont s'atrophier et son audition ne sera jamais bonne et sa parole sera altérée. Il parlera comme ça, d'une façon qui, pendant très longtemps, a fait croire à la débilité. C'est pour ça que c'était Pinel, le neurologue, qui pensait que l'enfant était débile. Maintenant, il y a une nouveauté, puisque cette émission a pour titre nouveauté, des choses importantes, qui est qu'on appelle l'implant cochléaire. Des enfants sourds, on leur met un petit fil, je vais dire électrique, mais ce n'est pas tout à fait ça, avec un petit boîtier sous la peau, derrière l'oreille, c'est relié à un amplificateur, et ces enfants qui n'entendent pas un son à la naissance ont la possibilité, c'est pas 100% comme toujours en médecine, mais ce sont des taux très élevés, de parler comme vous, comme moi, de faire des émissions radio-télévisuelles, d'avoir un métier, d'être complètement intégré dans le monde des entendants. C'est un progrès extraordinaire.
Donc le lien entre voix et audition que vous venez de mentionner, professeur Olivier Lacourière, et on a évoqué donc le personnage de Victor, n'est-ce pas, cet enfant sauvage. Prénom d'ailleurs, vous savez que c'est le 200e anniversaire de Frankenstein, écrit par Marie Shelley il y a 200 ans sur les bords du lac Léman. Et ça, son personnage, eh bien, on va l'appeler Victor Frankenstein, le chirurgien qui va donner vie à sa créature. Voilà, tout ça est mêlé parce que c'est justement après Condillac et, je veux dire, on est dans 1820 oui. 20 et quelques, quoi. Alors, et puis, alors, il y a le phénomène, de, si on suit un peu l'âge, on est parti du bébé, de ce qu'il acquiert progressivement, la mue. Ça, c'est quand même assez étonnant.
Le bouleversement de la mue avec l'apparition des hormones, donc ces petites cordes vocales de l'enfant qui faisaient 3 mm se sont développées pour arriver à peu près 1 cm chez tous les adolescents. Et tous ces enfants, garçons et filles, ont une voix plutôt aiguë qu'on appelle une voix de tête. Et chez les garçons arrive la testostérone, l'hormone de la violence. Et cette testostérone va hypertrophier les muscles, hypertrophier les cartilages et va faire que chez l'homme, la voix va aller vers les graves, grosso modo c'est 8 octaves, qui vont se modifier vers les basses.
Alors chez la femme, c'est 3.
Chez la femme, oui, il n'y a pas de testostérone, il y a la progestérone. On parle beaucoup de ces hormones sexuelles, mais il y a aussi les hormones thyroïdiennes qui interviennent. Il y a les hormones de croissance, et la femme a des hormones thyroïdiennes et des hormones de croissance, comme l'homme. Et donc, il va y avoir perte simplement de 3 octaves par rapport à la voix des enfants.
Вихожу один я на дорогу сквозь туман кремлистый путь блестит ночь тихо пустыня внемлет Бог звездою говорит и звездою говорит.
Voilà Boris Sokolov, une belle voix de basse qui a bien fait sa mue, on va dire. Plutôt sympathique à entendre. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a quelques personnes, comme vous le savez, qui changent de sexe et ça peut buter sur la voix et au point que on va, pour certaines, essayer donc d'hypertrophier les cordes vocales en administrant de la testostérone ou bien au contraire de féminiser la voix. Et là, c'est là où vous pouvez intervenir, enfin les ORL peuvent intervenir sur le plan chirurgical, professeur Lacouraille.
Oui. Chez les femmes qui souhaitent viriliser leur voix, c'est l'injection de testostérone que l'on fait. Il faut savoir que le résultat est irréversible. La voix que l'on aura obtenue après l'injection ne redeviendra jamais féminine. Donc c'est une décision vraiment à prendre après une mûre réflexion, de nombreux entretiens.
Vous voulez dire que même si on arrête la testostérone?
Oui, la voix est définitivement virilisée, on ne revient pas en arrière. Ça a complètement, en quelque sorte, hypertrophié les muscles qui ne vont pas s'atrophier de nouveau. chez l'homme qui souhaite féminiser sa voix, eh bien, si je pars en voix de tête, je tends mes cordes vocales. Donc, comme au niveau du cartilage dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, les cordes vocales sont attachées en avant, on peut, en faisant une petite incision sous la peau, fracturer ce cartilage et tendre en le déplaçant la partie antérieure vers l'avant. C'est une technique qui a été mise au point par le professeur Ishiki au Japon et qui se fait, il y a 2-3 centres en France qui s'occupent de cela. Il faut vraiment aller dans des équipes qui ont l'expérience de cela parce qu'il y a une tension, un coup de main vraiment à avoir, une tension à savoir donner. Là, par contre, le résultat peut être réversible puisque l'on peut, en reprenant l'intervention, enlever en quelque sorte les cales qui ont déplacé le fragment cartilagineux et essayer de les remettre en place. Il faut quand même dire un point, c'est que c'est un organe unique. Et donc, toute intervention crée un risque d'infection. Et toute infection au niveau du larynx peut entraîner ce qu'on appelle une chondrite, une inflammation du cartilage, qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire un trou dans la définitive dans la trachée pour assurer la respiration. Car comme vous l'avez dit au début, on parle beaucoup de la voix, mais cet organe, ce larynx, il participe aussi à la respiration et à la déglutition. C'est une valve qui a 3 contrôles primordiaux pour la survie.
Donc bien réfléchir.
Bien réfléchir, prendre le temps.
De toute façon, les conseils médicaux sont là pour poser les limites telles que vous venez de le faire. Dans les changements de la voix, donc celui-là est très particulier, mais qu'est-ce qu'il y a comme facteurs qui interviennent? Le stress, le surmenage, la pollution, est-ce que tout ça peut avoir un rôle qui va retentir sur la voix? Parce qu'après, on va parler avec vous, professeur Lacouraille, de vos consultations médicales, hein, c'est parce qu'il y a des souffrances de la voix. Donc, le stress, le surmenage peut modifier la voix?
Oui, oui, tout à fait. Le stress va agir de façon très importante sur la voix. Grosso modo, quand on est stressé, on se tend. Et donc, on va tendre ce muscle vocal, cette corde vocale, et en tendant, on va monter dans les aigus. Mais c'est pas le simple élément qui va survenir, c'est que le rythme de la parole et de la voix va se modifier. On va aussi avoir une sécheresse de la bouche, et pour que cette corde vocale fonctionne bien, pour émettre un son, par exemple un A, eh bien, mes cordes vocales vibrent 200 à 300 fois par seconde. Donc c'est une extrême fréquence, ce qui fait qu'il y a un échauffement. Et il faut donc qu'il y ait un lubrifiant qui est fait par le larynx. Il y a des glandes qui lubrifient ces cordes vocales. Mais si en plus je tends et je tire sur ma corde vocale, je crée un risque de traumatisme. Et en étant stressé, j'assèche aussi, d'une certaine façon, mes glandes. Ce qui recrée ensuite un problème. Et à ce moment-là, on arrive à un mécanisme qu'on peut appeler le mécanisme de forçage vocal. C'est-à-dire, mon esprit va vouloir maintenir mes harmoniques et mon fondamental. Je vais sentir que ma voix dérape et je vais forcer. Et à force de forcer, je vais créer des micro-lésions au niveau de la corde vocale et je risque de casser. Donc le stress est vraiment la pire des choses qui puisse arriver à un professionnel de la voix. Il faut, quand on est professionnel de la voix, être détendu quand on parle.
Et lorsque ça rajoute le tabac et l'alcool?
Alors là, c'est de pire en pire. On a sauté rapidement les infections, mais le tabac et l'alcool sont vraiment des poisons pour la voix. Il faut savoir que si l'on fume 2 cigarettes par jour, on va déclencher au niveau des fosses nasales, de notre nez, un œdème et un mauvais filtrage de l'air respiré. Et cet air respiré, il va arriver sur nos cordes vocales. Car quand je parle, je respire, je prends des inspirations. Et l'air ne va plus être filtré. Non seulement il ne va plus être filtré, mais il ne va plus être à température correcte pour ne pas irriter mes cordes vocales. Donc rien que 2 cigarettes, on perd ce contrôle de l'air. Maintenant, si je passe à 6 cigarettes par jour pendant 30 ans, je multiplie significativement le risque de survenue d'un cancer du larynx. Et si, alors je vais plus loin, mais en France, on va dire que c'est pratiquement commun, un paquet de tabac pendant 30 ans, donc c'est 2 cigarettes, 6 cigarettes, un paquet, à ce moment-là, je multiplie par 13 mon facteur de risque de développer un cancer au niveau de mes cordes vocales par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. Et si en plus, j'aime le Bordeaux et que je prends 1 litre de Bordeaux par jour...
On va dire du vin paquet, pour ne pas faire de marque.
Oui, pardon. Hein. Pardon,
le Bourgogne, c'est pareil.
Le Bourgogne est très bon aussi, le rosé aussi, le champagne est excellent. Ouais. Si j'en consomme 1 litre, à ce moment-là, j'ai un facteur multiplicatif qui est de 30 par rapport à quelqu'un qui n'a aucune consommation d'alcool ou de tabac.
You know I love you. I love you. Girl, I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. I put a spell on you. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I'm in love. You know I can't stand it. You're running around. You're no better, babe.
Voilà, vous êtes sur France Culture avec Joe Cocker pour montrer ce que c'est qu'une voix rauque, hein, qui a travaillé, peut-être forcé, ce côté-là, mais qui bien sûr nous a séduit, et qu'on regrette bien sûr sa disparition. Alors c'est, le lien se fait tout de suite avec le chant, puisque avant qu'on aborde les problèmes de pathologie, vous avez cité les polypes, les cancers, etc. Le phénomène du chant est quand même, je dirais, assez extraordinaire. Issu de, bon, on va dire, la période des synagogues avec la récitation modulée, puis les chants grégoriens, puis les polyphonies, les différents registres de voix qui ont été établis. On le voit très bien dans votre livre, Olivier Lacoureille, Les clés de la voix, entre les sopranos jusqu'aux basses, qu'on vient d'écouter trop peu de temps. Je voudrais m'arrêter un instant sur les castrats. Puisque, évidemment, en termes de chant, c'est quand même quelque chose de particulier, qui n'existe plus en tant que tel, même s'il y a des hommes, qui, on va l'écouter tout à l'heure, qui arrivent à avoir des voix proches de cette pureté juvénile. Alors, le phénomène des castrats, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, le phénomène des castrats dans le chant a une origine, on va faire un petit peu d'histoire, qui remonte à l'épître aux Corinthiens de saint Paul, qui a écrit que la femme ne chantera pas dans les églises. Et l'évolution du chant, comme vous l'avez dit, du chant de synagogue au chant grégorien, puis au chant polyphonique, s'est fait vers un chant qui monte extrêmement dans les aigus sur des lignes polymélodiques. Et en ces années, c'est-à-dire on est à peu près au XVIe, XVIIe siècle, l'église avait besoin de voix qui soient extraordinaires, les aigus, bien entendu, rappelant les anges et le chant participant de la diffusion du message liturgique et de la beauté de la religion. Et n'ayant pas de femmes dans les églises, ayant des voix de femmes en dehors des églises, car il y avait des concerts polyphoniques privés, une grande cantatrice de l'époque s'appelait Georgina, les papes ont utilisé les castrats en leur permettant d'intégrer les chœurs de l'église et de chanter.
Mais alors, qu'est-ce que c'est un castrat exactement?
Alors, ces castrats, c'était des jeunes enfants très doués pour le chant. Ils étaient repérés. Il y avait des écoles de chant de castrats.
Mais avant qu'ils ne soient castrats.
Avant qu'ils ne soient castrats, ils étaient des enfants qui chantaient bien.
Voilà.
Ils avaient des voix déjà remarquables.
Donc on repère des jeunes enfants.
On repère
des
jeunes dans une classe, on les fait chanter. Et dans toute classe, on va trouver deux, trois personnes qui, naturellement, ont le don pour le chant et qui chantent naturellement. Par exemple, Céline Dion, ça a été comme ça. On l'a repéré dans
enfin,
une classe.
Enfin, c'est pas un castrat. Hein.
C'est pas un castrat, non, mais elle a une voix dans les aigus extraordinaires.
Elle a une voix dans les aigus extraordinaires. Malheureusement, on n'a pas pu passer toutes ces voix merveilleuses qui existent, faute de temps, mais on va renvoyer effectivement à quelques relais. Mais donc, cet enfant, qu'est-ce qu'on lui fait comme misère?
À l'âge de 9 ans, on lui fait une misère épouvantable. On va lui lier les vaisseaux qui amènent le sang aux testicules.
Donc on n'enlève pas les testicules.
Voilà, c'est la différence avec un eunuque.
Voilà.
L'eunuque, on va lui enlever les testicules parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de possibilité de reproduction. Les castrats pouvaient avoir des enfants.
Donc ils peuvent avoir des relations sexuelles.
Ils peuvent avoir des relations sexuelles. L'un des plus grands castrats, Farinelli, avait des relations sexuelles. Et grâce à cette ligature, il va quand même y avoir un peu de testostérone qui
va
viriliser.
En fait, on diminue la dose de testostérone.
Et on va faire travailler l'enfant de façon absolument terrible pendant une dizaine d'années pour acquérir la maîtrise du souffle, le chant, des techniques et ils vont pouvoir tenir des notes aiguës et avoir une puissance extraordinaire.
Voilà, donc nous sommes avec les airs de Farinelli, enfin chantés par Farinelli, et qui est repris bien sûr dans les temps modernes par Jarouski, que vous venez d'entendre, et qui a une voix avec une étendue assez extraordinaire, hein, je dirais, et qui fait, nous fait penser bien sûr à l'époque des Castrats. Le dernier étant d'ailleurs 1912, hein, il va arrêter de... va demander la permission plutôt au pape d'arrêter de chanter. Alors le chant, donc, bien sûr, il y a aussi le chant des sirènes, hein, qui attire et peut entraîner loin, dans les profondeurs. Et puis il y a le chant des animaux. Parce que, oui, vous avez dit tout à l'heure comment la station debout a aussi permis aux larynx de se positionner et de jouer sans doute un rôle. Mais les animaux, alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, en particulier les oiseaux, quoi. Donc on pense à Olivier Messiaen, bien sûr, qui a tellement écrit sur le chant des oiseaux. Le fait que... alors, ils ont quelque chose de particulier, ce qu'on appelle le syrinx, hein, qui va faire qu'il va pouvoir moduler.
Oui. On a vu que la voix s'était définie par le dictionnaire Larousse comme l'ensemble des sons émis par l'air qui sort du poumon et qui traverse le larynx. Et donc, il n'y a pas que l'homme qui a des structures pulmonaires et des structures qui s'approchent du larynx. Les oiseaux chanteurs, tous les oiseaux, ont ce qu'on appelle un syrinx, alors qui est localisé plus bas dans la trachée, c'est-à-dire plus proche de ce qu'on pourrait dire notre thorax, leur thorax. Et cette particularité leur permet de voler et en même temps d'émettre ces sons, ces voix, qu'ils reconnaissent les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas que les oiseaux d'ailleurs, les ours, les éléphants, les chiens, les chèvres pour citer tous les cétacés.
Mais les oiseaux, c'est plus joli quand même.
Mais les oiseaux, c'est beaucoup plus joli. Mmh. En sachant quand même qu'il y a eu un cas clinique rapporté en médecine, on aime bien rapporter en vétérinaire aussi les cas cliniques. Il y a une baleine qui, aux USA, est arrivée à imiter la voix humaine. Après, une baleine qui a été recueillie et qui a été éduquée, et elle arrive à copier la voix humaine, un petit peu comme les perroquets imitent la voix humaine. D'ailleurs,
pourquoi les perroquets, justement, peuvent imiter la voix humaine? Ils ont un diaphragme qui bouge?
Ils ont trois choses que n'ont pas les autres oiseaux. D'abord, ils ont une langue très proche de notre langue. Et encore une fois, cette voix ne participe pas que des cordes vocales. La langue joue un rôle très important. Deuxièmement, ils ont une sélectivité fréquentielle auditive beaucoup plus étendue que nous. Donc, ils entendent beaucoup plus de sons. Et enfin, ils font partie des animaux, des oiseaux qui ont le plus gros cerveau. Et bien entendu, on n'a pas parlé de cela, mais la partie cérébrale est très importante au niveau de la voix, tant pour sa production que pour son ressenti émotionnel.
Bien sûr. Mais en ce qui concerne donc cette étendue, nous sommes la fête de la musique, donc nous allons faire une étendue justement du registre de la voix, de grave à l'aigu, avec une, comme vous dites, vous employez des mots qu'on ne connaît pas très bien, tessiture ou lambitus. Hein, lambitus, c'est la possibilité de passer de l'un à l'autre, d'un extrême à l'autre. Alors écoutez cette voix colombienne.
En la soledad, el cabrestero cantando. su copla en la madrugada, el cabrestero cantando su copla en la madrugada. El torpito la vaca y el novillo se retira, como el novillo era toro, la vaca siempre.
Voilà, il nous faut quitter Simon Dias, que je recommande, qui a une voix fabuleuse et un chant fabuleux. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans le domaine médical, puisqu'on est là ensemble avec le professeur Olivier Lacourrière, en lien d'ailleurs avec le quotidien du médecin, qui répond à vos questions, enfin, vous répondez plutôt aux questions des auditeurs. Et à Sur France Culture, nous avons donc cette émission un peu spéciale, le jour de la musique. Alors, l'inverse, le bégaiement.
Alors, le bégaiement n'est pas un trouble de la voix, c'est un trouble de l'articulation. D'accord. Et donc là, la voix est tout à fait correcte, mais le contrôle de la parole ne va pas être du tout correct. Et donc là, c'est pas tellement l'otorhinolaryngologiste, mais plutôt le phoniatre et l'orthophoniste qu'il faut consulter.
Est-ce que on pense que dans les troubles de la voix, dans l'apparition de la voix, et dans les troubles de la voix, il peut y avoir un phénomène génétique ?
Alors, une question qui s'est posée de tout temps, c'est d'où venait la voix. Alors, ça a entraîné de tels débats qu'au niveau de la société de linguistique, dans les années 1800, les statuts de cette société ont été réécrits pour interdire de parler de ce problème, tellement les gens s'écharpaient sur le sujet. Heureusement, les choses ont progressé et on peut dire que la voix que nous avons actuellement, la voix humaine à l'heure actuelle, est reliée à deux éléments. Un élément morphologique, nous sommes passés de nos ancêtres, les singes, qui marchaient à quatre pattes, à une station debout, ce qui fait que ça a fait monter notre larynx dans le cou, donc son positionnement, contrairement à celui de l'oiseau qui est beaucoup plus haut dans le cou, a facilité le développement de la voix. Et deuxièmement, les chercheurs espagnols se sont aperçus qu'il y avait un gène que l'on retrouvait dans les cadavres des hominidés dans les années 150 000, qui n'existait pas jusque-là, qui a un nom très savant que j'oublie tout le temps.
Fox.
Le gène Fox. Et ce gène serait, d'après les explications de ces chercheurs, un élément indispensable pour faciliter la communication entre les humains. Donc à la fois un élément morphologique et à la fois un élément génétique. La combinaison de deux facteurs.
Alors maintenant, dites-moi, professeur Lacourrière, dans vos consultations, qui est-ce qui vient vous consulter et pourquoi ?
Alors, je suis spécialisé dans les troubles de la voix et on a tout un panel de consultations qui varie en fonction de l'âge. La plus grande partie sur l'hôpital européen Georges Pompidou, ce sont les cancers du larynx. Mais il faut savoir, et ça, on n'a pas en France de données globales, mais on a des données aux USA, il faut savoir que quand on a un trouble de la voix, une dysphonie, quand on a la voix cassée, c'est pas le cancer qui est le plus fréquent. Donc il ne faut pas inquiéter les auditeurs. Le plus fréquent, ce sont les inflammations de la gorge, les laryngites, ou des petites tuméfactions bénignes qu'on appelle polypes kystes, ou bien enfin, des éléments qui favorisent la survenue de ces tuméfactions bénignes, que sont le forçage vocal, que l'on trouve très fréquemment chez les enseignants, par exemple, qui, pour se faire entendre, vont forcer sur leur voix.
Mais quand est-ce qu'il faut vous consulter ? Quand il y a un changement qui dure depuis une semaine, quelque chose comme ça ?
On va dire 10 jours.
10 jours.
On a la chance, en France, de pouvoir avoir un examen de son larynx pour un coût modique, inférieur à 30 euros, qui va être remboursé à 70%. Et c'est très important parce que, d'une part, ça va permettre de séparer votre trouble de la voix entre une pathologie bénigne ou un début de pathologie maligne. Donc ça va rassurer la personne malade. Mais d'autre part, il faut savoir que si jamais c'est une pathologie maligne, c'est-à-dire un cancer, le plus souvent lié au tabac et l'alcool, si vous le dépistez à l'heure actuelle à un stade précoce, stade 1 ou 2 pour les scientifiques, eh bien le taux de guérison dépasse les 95% en conservant sa voix. Pour donner un exemple, si on fait un peu d'histoire des cancers du larynx, si on compare les progrès qui ont eu lieu en un siècle dans les cancers du larynx, on peut dire que les gens, la population, globalement, statistiquement, a gagné 20 ans de survie, Hein, quand on avait un cancer du larynx en 1880, on avait 4 chances sur 5 de mourir en moins d'un an. Maintenant, pour arriver à un même taux de décès, c'est-à-dire de 80%, il faut attendre 25 ans. Et 4 fois sur 5, on aura préservé le larynx. Donc on va vivre 20 ans de plus grâce au progrès de la médecine en préservant son larynx. Mais la condition sine qua non pour arriver à ce résultat, c'est d'être dépisté précocement. Exactement comme pour les cancers du col de l'utérus ou du sein, dépistage précoce.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme outil pour voir ce qui se passe? Parce que vous avez quelqu'un qui vient avec une voix cassée, récente, depuis plus de 10 jours. Alors, comment vous allez l'examiner?
Là encore, de très
grands... Tirer la langue et faire « Ah !»
On a très grands progrès médicaux. On n'utilise plus le miroir laryngé. Et il y a encore là un lien entre l'otorhinolaryngologie et la musique, puisque ce miroir laryngé, qu'on a appelé le laryngoscope, il nous est venu de l'idée d'un professeur de chant, Manuel Garcia, qui se promenait dans les jardins du Palais Royal et qui a eu, en voyant sa glotte ou son larynx dans un des reflets des glaces du Palais Royal à l'époque, a eu l'idée de faire fabriquer l'objet, c'est-à-dire le miroir. Ce miroir qu'on vous met dans la gorge en tirant la langue. Bon, maintenant...
Alors, il faut dire quand même que Manuel Garcia était le frère de la Maliban.
Oui,
et le frère de Pauline, qui est une autre...
Pauline Viardot.
Voilà, qui va succéder quand Maliban va décéder jeune, d'ailleurs. Oui. Donc, effectivement, c'est lui qui donc invente ce miroir qui permet de voir les cordes vocales.
C'est lui qui invente le miroir. Et là, on peut voir la réaction des médecins, toujours très suspect quand il ne s'agit pas d'une invention qui vient de leur monde. Et il présente son invention 2-3 ans après à la Société Royale de Médecine anglaise, parce qu'à ce moment-là, à l'époque, c'était Londres qui était le haut lieu de la médecine. Et le compte-rendu de la société dit que ça n'est qu'un simple amusement et que ça n'a aucune portée scientifique. Alors que ça a été l'élément qui a permis de voir les larynx qu'on examinait avant, simplement en faisant un toucher au doigt par la bouche.
Avec quelques petites réactions.
Avec quelques petites réactions et aucune finesse d'examen.
Bien entendu.
On a encore progressé puisque maintenant on utilise des optiques.
Voilà.
Alors ces optiques, on peut vous les passer par le nez. On
très fin.
Ça très fin, oui, 2-3 mm.
Voilà. Hein.
Ça fait toujours un petit peu peur quand le médecin s'approche de vous avec cette optique. On a toujours un petit peu peur d'avoir mal, c'est un petit peu désagréable. Mais il faut savoir qu'il faut supporter l'examen et au mieux sans anesthésie, parce que si on vous anesthésie, on peut modifier les réflexes naturels et l'analyse fine de votre voix. Et donc rater des éléments simples. On peut aussi passer cette optique par la bouche, c'est une optique rigide, un peu plus grosse, qui présente un des avantages, c'est qu'il peut y avoir un réflexe nauséeux.
Et alors d'autres examens, qu'est-ce que c'est que le stroboscope?
Alors le stroboscope, c'est... On va envoyer
ça
une lumière.
Cinéma, quoi.
Oui, c'est cinéma. C'est tout à fait cinéma. On va, vous vous souvenez que ces cordes vocales vibrent très rapidement. Et donc, sur la surface de ces cordes vocales, il y a une muqueuse qui ondule. Et c'est grâce à ça que l'on peut faire varier notre voix au temps. Cette muqueuse, c'est la zone de départ des pathologies bénignes. Et l'espace entre le ligament et cette muqueuse est très important. Et donc, en envoyant des flashs de lumière plus ou moins couplés à la fréquence de vibration de la corde vocale, on va découpler l'image de la muqueuse de la vibration de la corde vocale. Et on va s'apercevoir si la lésion que l'on voit, que l'on suspecte, est sur la muqueuse, dans l'espace où touche le ligament vocal. Donc on va avoir une analyse très très fine de ce qui se passe au niveau de la corde vocale.
Donc on a maintenant, plus les imageries aussi, on a quand même quelques approches plus
solidifiées. À ça est venu s'alluger, s'ajouter l'imagerie, là c'est le scanner du larynx avec le radiologue. On peut aussi mettre des aiguilles dans votre larynx pour voir comment électriquement fonctionne votre larynx, on appelle ça l'électromyographie. Et puis on peut ensuite faire aussi des analyses de votre voix, soit subjectives, avec des échelles, donc on vous pose des questions, vous remplissez quelques questionnaires et on a votre avis sur votre voix, ou bien on peut aussi analyser un certain nombre de paramètres. Je vous ai parlé de cette fréquence fondamentale, on peut avoir son chiffre. Je vous ai parlé des harmoniques, on peut les avoir aussi. On peut analyser la stabilité du signal. Tout ça par un enregistrement simple de votre voix qui est ensuite mis sur un ordinateur et qui ressort des données qui sont très utiles.
Alors, parmi les affections, donc la laryngite, vous l'avez évoquée, qu'elle peut être virale, bactérienne, champignon. Il peut y avoir aussi des paralysies unilatérales.
Oui.
Qui peuvent donner des espèces de voix qui, de temps en temps, sautent.
C'est ça, ce qu'on appelle les voix bitonales.
Ouais.
Parce que la muqueuse de chaque corde vocale va vibrer à une fréquence différente. Et donc, vous allez avoir deux fondamentaux, donc deux tons. Donc, on va avoir l'impression que votre voix, c'est très difficile à imiter. Vous parlez, puis d'un seul coup, elle casse, puis elle revient dans un autre timbre. Ça inquiète beaucoup les personnes atteintes. Ces étiologies de paralysie sont rares en France. Elles ont été très fréquentes lors de la grippe espagnole. Il y a eu une épidémie d'atteinte virale du nerf qui fait fonctionner ses cordes vocales, qu'on appelle le nerf récurrent. Et c'est les gens qui ont eu cette grippe espagnole sont malheureusement décédés depuis, et donc il n'y a plus cette étiologie. Et l'étiologie principale à l'heure actuelle que l'on retrouve, c'est la chirurgie. C'est-à-dire que ces nerfs qui font fonctionner ces cordes vocales, il peut y avoir divers actes chirurgicaux au niveau de la colonne vertébrale, de la glande thyroïde, du poumon, de l'ésophage.
Ou des traumatismes aussi.
Ou des traumatismes aussi, oui.
Des accidents. Quoi.
Mais en volume, les accidents sont moins fréquents que l'agression chirurgicale.
Et alors, qu'est-ce que c'est que l'aphasie psychogène ? D'un seul coup, la parole s'arrête ?
Oui, on va dire l'aphonie psychogène, parce que si c'est une aphasie, ça va être une atteinte cérébrale. Donc, on devient brutalement aphone. Et on n'a plus de voix. Oh, la voix est cassée ! Cette voix est totalement transformée, voire parfois une certaine mutité. Alors, ce trouble est un trouble qui est en fait l'expression d'une grande souffrance psychologique. Et là aussi, il est indispensable d'examiner le larynx parce que on voit les cordes vocales de la personne bouger, ce qui témoigne de l'intégrité de l'organe. Mais par contre, l'intégration cérébrale du mouvement n'est plus possible et on bascule là dans le domaine de la psychiatrie. C'est le signe d'une extrême souffrance, par exemple, après des viols, après des traumatismes de guerre, on peut voir ce genre de pathologie. Il faut l'expliquer à la personne malade et lui dire qu'il faut une prise en charge, bien entendu, psychiatrique, la rassurer sur le fonctionnement du larynx et lui dire que ce n'est pas une maladie, c'est une réaction de son esprit à un choc émotionnel très important. Il va falloir arriver à en parler. Enfin, là, c'est toute une prise en charge psychiatrique, parfois longue, qui est nécessaire.
Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure d'aphasie, mais c'est peut-être en rapport avec le livre de Serge Braun, Le syndrome de Babel, hein, qui vient de sortir chez Odile Jacob, où il y a effectivement une mutation qui fait que la voix, les gens n'arrivent plus à parler, s'éteint progressivement, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle mutation qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui ne suit pas le mouvement, et qui va permettre sans doute de faire un bon polar en tous les cas. Vous parlez du cancer, qui reste quand même la préoccupation, puisque les diphtéries, la syphilis, la tuberculose, tout ça, en tous les cas dans le pays, a quand même disparu de l'atteinte laryngée, n'est-ce pas ? Il reste des nodules, des polypes, des granulomes, tout un tas de lésions où on va essayer de faire le diagnostic. Et vous avez expliqué tout à l'heure, professeur Lacoureille, ce à quoi vous allez faire référence, c'est-à-dire aux imageries diverses et variées pour faire le diagnostic et sans doute un prélèvement. Pour faire le cancer du larynx, ça s'opère ?
Alors le cancer du larynx, le premier traitement des cancers du larynx, ça a été l'intervention. Il n'y avait que la chirurgie à cette époque. C'est une époque charnière dans les pathologies du larynx. C'est dans les fins des années 1880. Et à cette époque, il y a deux choses qui sont produites simultanément. Les pathologies qui entraînaient le décès, laryngée, ça s'appelait les phtisies. Et phtisie, en français, ça veut dire pathologie laryngée qui entraîne toujours le décès. Et donc, c'était, comme vous l'avez dit, la tuberculose, la syphilis et la diphtérie. Alors, la tuberculose, il faut quand même continuer à se vacciner, la diphtérie aussi, parce que là, si on arrête les vaccinations, ces maladies vont revenir. Et donc, il faut quand même rester vigilant sur la prévention de ces maladies. La syphilis est en recrudescence, mais il faut savoir que c'est une infection qui se traite maintenant très très bien, et l'atteinte laryngée ne survient qu'au troisième stade de la maladie. Donc on a le temps de traiter bien avant l'atteinte laryngée. Reste donc le cancer. Et pourquoi les cancers sont apparus ? Parce qu'à ce moment-là, dans les années 1880, le cancer était la plus rare des phtisies laryngées. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est arrivé pour une simple chose, c'est le développement de la cigarette. Le tabac qui jusque-là se prisait, tout le monde a pu le fumer grâce à la développement des cigarettes. Cigarettes qui, à l'époque, n'avaient pas d'additifs pour faire fumer, mais les gens, c'était les nobles et les gens riches qui prisaient et qui fumaient, donc tout le monde s'est mis à vouloir faire comme eux, et le nombre de gens qui a fumé de façon très importante a explosé. En sachant que la consommation d'alcool dont nous vous avons parlé était 15 à 20 fois plus importante par habitant à l'époque. Donc on a les deux facteurs dont je vous ai parlé, cumul, alcool, tabac. Et là, les cancers du larynx ont explosé.
Alors, il y en a un célèbre, c'est celui du prince Friedrich en Allemagne. Si vous aviez été là pour le diagnostiquer, on n'aurait peut-être pas eu la suite de l'histoire, puisque malheureusement, son père, Guillaume, va décéder en 1888. Donc, on est dans les dates que vous signalez, professeur Lacouraille. Et lui, atteint de son cancer, va survivre en fait 3 mois, 99 jours, je crois. Et celui qui va lui succéder, c'est son fils, c'est Guillaume II, malheureusement belliqueux. Et on va voir le cycle des guerres franco-allemandes qui vont commencer. Peut-être que lui, Friedrich, qui était plutôt ouvert, je dirais libéral, n'aurait sûrement pas conduit les choses comme ils ont été conduites. Voilà, alors, sur le plan médical et nouveauté, qu'est-ce qu'on peut dire? La greffe du larynx, ça existe?
Alors, en cancérologie ORL, il y a énormément de nouveautés. La greffe du larynx en est une. C'est une technique ancienne, mais qui, à l'heure actuelle, a un regain d'intérêt, principalement à cause des traumatismes laryngés suite à la guerre d'Irak, où des militaires sont mutilés de façon définitive, et le volume de personnes atteintes est très, très important aux USA. Donc il y a un regain d'intérêt. Il y a un chirurgien colombien qui, récemment, a publié des résultats très encourageants, et dans notre pays, les ORL se sont regroupés sous... la conduite du professeur Philippe Séruse à Lyon pour avoir un projet centralisé sur la France de greffe du larynx et apporter une solution aux traumatisés définitifs du larynx.
Mais vous avez greffe et implant aussi, possibilité d'implanter en matériaux, en titane
Oui, la laryngectomie totale, c'est-à-dire l'ablation complète du larynx, qui est une intervention qui a à peu près un siècle et demi, laisse la personne atteinte avec une ouverture de la trachée qui est suturée à la peau, donc vous avez une visibilité de la trachée juste au-dessus du sternum, et la perte complète de la voix. Donc pour compenser cette perte complète de la voix, il y a différents mécanismes. La voix œsophagienne, on avale de l'air et on restitue, un petit peu comme les ventriloques, mais ce n'est pas une voix de ventriloque, c'est un petit peu comme les ventriloques. La voix avec des vibrateurs, on fait vibrer près de la langue, et donc on utilise l'air de la cavité buccale pour donner une voix. La voix avec un implant phonatoire que l'on met au travers du trou pour utiliser la soufflerie pulmonaire et la vibration au niveau du pharynx qui a été fermé. Et enfin, le dernier point qui est de reconstruire un larynx en quelque sorte artificiel électronique. Et là, c'est le professeur Debris au CHU de Strasbourg qui est en pointe sur ce sujet.
Vimbo, vimbomfane,
vimbo, la means of vimbo. Vimba,
vimba,
vimba, la means of vimba.
Vimba,
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 la means of vimba.
Vimba,
vimba, vimba,
la
means of vimba. Vimba, 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 la means of vimba. Vimba, 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 la means of vimba. Vimba, vimba, vimba.
Voilà, les chants polyphéniques d'Afrique du Sud nous montrent la créativité, n'est-ce pas, qu'on peut avoir toujours avec cette voix lorsqu'elle n'est pas atteinte de différentes maladies. Il y a une recrudescence des granulomes autour des cordes vocales. Est-ce que c'est un problème que vous constatez? Combien il y a d'interventions sur le larynx en France? Ça représente quoi?
Alors le chiffre est vraiment difficile à dire parce que on bénéficie d'un système de dépistage, c'est-à-dire dès que l'on a vraiment un doute, on va faire passer au malade une endoscopie pour examiner ce qui intervient dans ces interventions. Donc dans le service, on fait une vingtaine d'endoscopies par semaine, à peu près. Donc vous pouvez multiplier ça sur l'ensemble de tous les CHU parisiens, parce qu'il y a un service d'ORL, les CHU de province, beaucoup de centres hospitaliers, il y a au total 2500 ORL à peu près en France. Donc vous voyez, ça fait un nombre de gestes de dépistage très important. Pour ce qui est des interventions lourdes, l'ablation complète du larynx, ou la chirurgie partielle du larynx, qui il y a encore une vingtaine d'années était énormément réalisée, il y a un très grand progrès à l'heure actuelle. de progrès qui est essayer de passer par les voies naturelles en utilisant le laser. Donc on évite les incisions cutanées d'une part, et voire même essayer d'éviter complètement la chirurgie en utilisant la chimiothérapie et ou la radiothérapie, éventuellement associée, qui permet d'obtenir des résultats extrêmement proches de ceux de la chirurgie. Donc on est plutôt, je dirais, en phase de régression chirurgicale avec une progression sur la préservation des structures laryngées.
Rôle de l'éducation de la voix, parce qu'il y a de plus en plus, je dirais, de prise en charge à ce niveau-là.
Oui, oui. Il faut savoir que pour prendre en charge la voix chez l'enfant, tôt, il faut attendre qu'il y ait une coordination psychomotrice qui soit bien, bien acquise. Alors, un trouble de l'audition, on peut le prendre en charge et le rééduquer, commencer dès l'âge de 1 an. Un trouble de la parole, c'est dès l'âge de 3 ans. Par contre, un trouble de la voix, il faut attendre 7 ans. Donc, il faut être prudent chez les enfants parce que la rééducation ne sera pas facile, il faudra attendre. Donc, il ne faut pas que nos enfants crient, il faut leur apprendre à placer la voix, il faut leur apprendre aussi à ne pas forcer sur la voix quand ils s'expriment. Il y a une éducation des parents qui est importante au niveau, et dans le livre que nous avons écrit avec mon épouse Laurence et mon ami Alfred Werner, nous insistons beaucoup sur les mesures à la fin de cet ouvrage.
Oui, suivre, toutes les préventions
simples,
et toutes
les préventions, des petites mesures simples.
Et quand, sur cette éducation de la voix qui est un rôle effectivement important. Un point aussi qui est important, c'est voix et émotion. C'est le lien entre ce qu'on entend de la voix de l'autre et ce que ça peut toucher en soi. Cette espèce de récurrence, de récompense, vous dites souvent ce terme-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de...
On l'a très bien entendu, je pense que vos auditeurs l'ont entendu sur tous les airs que vous nous avez si aimablement passés et qui étaient tous, en tout cas moi, me touchaient au plus profond. Pourtant, la variété était extrême. Et il y avait à chaque fois un déclenchement émotionnel chez moi. Alors, je suis peut-être un être très sensible.
J'espère. Mais enfin, je le constate.
Mais en tout cas, les hystéries lors des concerts de Farinelli, l'état de transe qu'on voit au concert des Beatles, de Patrick Bruel, je ne vais pas citer tout le monde, mais même lorsque l'on entend un grand orateur, voire même à la radio, une voix qui passe peut entraîner une émotion très importante. Alors, tout le monde le sait que ça existe. Ce qui est intéressant, c'est que les neurophysiologistes et les radiologues, depuis ces 5-10 dernières années, ont mis en évidence les mécanismes qui entraînaient cela. Alors, on a un centre au centre de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, où l'émotion va être de façon importante, intégrée, traitée, et on va pouvoir réutiliser cette émotion.
Oui, et des fois, pas forcément à bon escient, hein, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites sur certains dictateurs ou certaines personnes envoûtantes par la voix. Donc la voix peut avoir une force. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Verlaine, mon rêve familier. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Danny Journaud, avec Alexandre Dang à la prise de son. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de France Culture et sur le site de notre partenaire, Le Quotidien du Médecin. Vous avez la semaine prochaine une émission extraordinaire, L'immortalité, un sujet d'avenir pour la médecine. Ça sera la dernière émission, bien sûr, mais immortelle, de France Culture Médecine.
En partenariat avec les pages santé de Nice Matin.